Arnaud Bouteillon, bonjour, merci d'être avec nous à notre studio de Paris pour cette émission qui a pour thème, nous avez-vous dit, les champions et la foi.
Bonjour chers amis auditeurs de Radio Maria, pour cette nouvelle semaine, pour surtout ce nouveau round avant la préparation de Noël. Alors quand on parle de champions dans la foi, et on parle de saints, donc on va sortir des vestiaires de notre confort pour rentrer en procession et rentrer sur le terrain un peu de la foi, de ce dialogue si fécond entre la vie spirituelle et puis la vie du terrain sportif dans cette perspective des Jeux Olympiques qui nous réjouit tous le cœur. Les saints et les saintes de Dieu, c'est toute notre vocation et notre appel, chers amis auditeurs de Radio Maria, en ce début de semaine. Nous qui aimons la vie, et la vie c'est le mouvement, c'est l'unité de la personne, c'est corps, âme, esprit, et puis nous aimons le sport parce que c'est aussi une belle respiration de notre personne qui nous fait avancer. On s'avance vers le Seigneur, on s'avance tel des champions. Et je vais vous parler aujourd'hui des champions. Les champions nous mèneront évidemment à la sainteté, mais je pense que c'est important aussi que des personnes qui baignent un peu dans une culture chrétienne comprennent comment se construisent des champions. Et donc, ça sera des témoignages de personnes qui viennent du milieu du sport. Et alors, je vous dévoile un peu le cœur de mon propos, mais en comprenant comment se construisent les champions, on voit à quel point, et on verra à quel point, le saint est un champion. Et on nous parle énormément aujourd'hui des champions. Les champions sont des idoles, les champions sont des vraies stars, etc. Dans la grande littérature sportive, de nombreuses pages ont été écrites sur ces grandes figures mythologiques qui ont construit la légende du sport par leurs exploits. On en a tous en tête, on a tous des retournements de situation, on a tous des exploits exceptionnels, individuels ou collectifs. Et hommes et femmes, les champions sont des personnes comme les autres qui sont finalement en même temps issus du tunnel de la sélection de la vie. Pour devenir un champion, c'est un peu comme on rentre dans le trou, dans une porte étroite, dans le chat d'une aiguille. Et pour être un champion, il n'y a pas besoin d'un pédigré particulier, il n'y a pas besoin d'une ascendance privilégiée pour les conduire à devenir ce qu'ils sont. Ils n'ont pas suivi un cursus de grandes écoles. C'est ça qui est intéressant dans un champion. C'est quelque chose qui va creuser très profond. Le terrain sportif ne ment pas. Nous sommes tous égaux, finalement, dans une forme d'appel. Et il y a une variété de sports, il y a une variété de talents en nous. Et tous ces champions, à un moment donné, ont répondu à un appel. Ils ont fait des sacrifices, ils ont finalisé, finalement, leurs sacrifices, leurs efforts. Ils ont ordonner leur vie pour cette ambition qui est de briller sur le terrain. Et le saint, il va briller aussi par des gestes de charité, par des gestes de communion. Très souvent, le pape, dans toute la lignée de nos derniers papes, reçoivent des champions en audience. Et il y a des conseils, des bénédictions, il y a un côté un peu people, évidemment, mais il y a aussi souvent des échanges en profondeur sur le cœur aussi de la patte humaine, parce que les champions, ce sont des personnes qui ont intériorisé des réalités de joie, de bonheur, de plénitude, mais aussi des réalités de souffrance, d'ascèse, de sacrifice, de solitude dans leur incompréhension, parce qu'un champion est aussi quelqu'un qui est très un peu obsessionnel dans son but. Comme peut-être Sainte Thérèse était obsessionnelle dans sa volonté de devenir sainte. Ce sont des personnes qui ont une vie souvent intérieure assez riche. Je ne parle pas des vedettes un peu en plastique, qu'on voit un peu people, un peu kitsch, qu'on voit très souvent dans les magazines. Je parle des vrais champions, celui qui marque l'histoire, dont on reparlera dans 50 ans. Un jour, au stade olympique de Rome, en 90, le pape Jean-Paul II, vous savez que le pape Jean-Paul II a délivré près de 300 discours sur le sport, donc il savait de quoi il parlait. Il avait fait beaucoup de canoë, il était gardien de but. Il paraît que c'était pas un très bon gardien, d'ailleurs. J'ai rencontré une de ses étudiantes un jour qui était ami avec un grand ami de Jean-Paul II qui disait non, Jean-Paul II n'était pas un grand gardien, mais c'était un très bon nageur, un très bon skieur, et puis surtout un homme de théâtre avec une vraie carrure, une vraie présence. Et Jean-Paul II, alors qu'il rencontrait des champions, et on voit aussi, on voit ça avec le pape François, il y a une espèce de sympathie un peu naturelle. Le pape François, il aime bien aussi les champions issus un peu du peuple. Ce sont des champions avec une forme de charisme, avec un mélange de grinta argentine, de folie, de grande générosité. Jean-Paul II disait la chose suivante: ce n'est pas seulement le champion sur le terrain, mais c'est l'homme. avec toute sa personnalité, qui doit devenir un modèle pour des millions de jeunes qui ont besoin de leaders et non d'idoles. Qu'est-ce que c'est un leader ? C'est quelqu'un qui trace la route. Voilà. Ils ont besoin d'hommes qui sachent leur communiquer le goût de la difficulté, le sens de la discipline, le courage de l'honnêteté et la joie de l'altruisme. Votre témoignage cohérent et généreux peut les inciter à faire face aux problèmes de la vie avec le même sens du devoir et le même enthousiasme. Vous savez que l'étymologie d'enthousiasme, c'est être conduit par Dieu, c'est le transport divin. Donc le pape Jean-Paul II, qu'on appelait aussi l'athlète de Dieu, il loue les talents de ses champions et il décèle la responsabilité pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de vertus, qui sont des vertus évangéliques, et sachent inspirer une jeunesse en quête de modèles. On voit à quel point aujourd'hui les jeunes sont si perdus, en particulier dans cette filiation un peu paternelle, ils cherchent des modèles. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans le sport, c'est que, ça fait longtemps que je le dis sur les ondes de Radio Maria, c'est qu'on est on est toujours sur la brèche, on est en permanence en équilibre entre la vertu et le vice, entre le bien et le mal. Et on voit à quel point des champions peuvent être des figures très inspirantes, mais aussi très déceptives, parce que parfois peu structurées ou bien soumis finalement aux sollicitations du monde. Mais les grands champions sortent du lot. Alors parfois, on peut naître champion de père en fils, et c'est très intéressant. Je vous recommande un documentaire qui est formidable sur Canal+, qui s'appelait Papa. C'est un documentaire qui collecte, fait par Olivier Dacour, qui est d'ailleurs chrétien, qui a fait un pèlerinage avec des athlètes chrétiens, et qui interroge la relation entre le père et le fils. Alors, au-delà du monde sportif, on voit la complexité de la relation entre le père et le fils, avec souvent beaucoup de pudeur, beaucoup d'incompréhension, etc. Et là, on est dans le milieu du sport. Et le risque du père de vouloir transférer et faire de son fils un clone, et puis l'aspiration du fils qui peut être aussi complètement écrasé par ce modèle d'un père qui est une vedette. Et ce qui est intéressant dans la famille d'Yannick de Noah, c'est qu'elle a produit trois générations de champions. Le père était footballeur, il jouait au club de Sedan. Le fils était tennisman et le petit-fils basketteur. Et lors d'un témoignage commun, Yannick Noah précisait « c'est sincère, c'est généreux et c'est intense. En sport, si tu ne travailles pas, tu n'y arrives jamais. Si tu veux aller au bout de tes capacités, donc au bout de toi-même, il faut morfler, il faut souffrir, il faut avoir mal, parce qu'il y a peu d'élus. » Et c'est vrai que la bénédiction du Père, les encouragements du Père, dans ces moments un peu de solitude, dans ces moments de souffrance avec du sacrifice, est une réassurance très forte. Dans ce documentaire Papa, il y a un moment absolument bouleversant. Il faudrait un jour que je l'enregistre pour le faire écouter à vous, chers amis auditeurs de Radio Maria. C'est quand Yannick Noah gagne en 1983 Roland-Garros, son père Zachary était en tribune officielle. Et à la fin du match, Zachary saute de la tribune pour rejoindre son fils. Et il saute, le saut fait près de 3 mètres, donc il aurait pu se briser la cheville, il saute, le service de sécurité est tétanisé, et là le père court, enlacé, embrasser son fils. Noah dit la chose suivante, je vois mon père se précipiter vers moi et je cours dans ses bras, et là je suis traversé d'une joie immense, indescriptible, impossible à qualifier, et c'est le bonheur, c'est le moment le plus fort de ma vie. Et Yannick Noah dit, mais c'est ton père qui vient dans tes bras et qui te prend et qui t'embrasse, etc. Et ce passage, il faudra que je vous le fasse écouter, eh bien c'est vraiment la préfiguration, moi je le crois, de la rencontre avec le Seigneur, c'est-à-dire une joie intense et avec un père débordant de joie, débordant de fierté pour son enfant et qui court vers lui, et le fils, voyant cet appel à l'amour, il court aussi, et avec une reconnaissance, avec une gratitude. Et les mots se trouvent faibles pour qualifier ça. C'est très très beau. Donc je vous promets, chers amis, le mois prochain, vous aurez cet extrait. Et voilà, je reviens à ces champions, et effectivement, il y a beaucoup d'appelés, mais très très peu sont élus, un peu comme dans l'Évangile. Ces champions, ils disposent de qualités innées, exceptionnelles, données à la naissance. Certains, c'est le cas. On pense par exemple aux champions à Usain Bolt, à quelqu'un comme Teddy Riner, qui ont des dispositions physiques absolument exceptionnelles. Mais parfois non. ces champions sont un peu à part, un peu comme des religieux, un peu comme des prêtres. C'est un peu comme des religieux du sport. Le champion, c'est celui qui se met un peu à part avec cette vie intérieure. Et puis, quelque chose qu'on retrouve un peu dans le célibat. C'est quelque chose qui fait que toute son énergie sera donnée pour quelque chose qui échappe aux autres. Voilà. Il n'y a pas vraiment de fabrique de vrais champions et de saints. Les grandes académies un peu américaines, à renfort de sponsors, de fric, etc., ça n'a pas marché. Moi, je pense que la fabrique, entre guillemets, du champion et du saint, il y a une part de grâce, il y a une part de gratuité et de spontanéité. C'est un peu comme la politique. On ne peut pas programmer un grand leader politique, on ne peut pas programmer un grand évêque, un saint. Voilà. C'est un cheminement jour après jour. On avance à la bougie, on suit un phare, mais on avance à la bougie, comme le dit le pape François. Donc, ces deux mouvements, on est guidé par ce phare, cette lumière, cet objectif de vie qui vous attire, et puis on avance à la bougie, puis parfois on tombe, et puis le saint, vous connaissez l'expression, c'est celui qui se relève plus vite que les autres, parce qu'il est aussi aspiré par la miséricorde. Et donc je crois que le champion, c'est celui qui accepte l'école de la vie avec ses lots de souffrance et de joie. Et puis tous sont jeunes, beaucoup de champions, ont un peu comme beaucoup de saints qui ont goûté très jeunes à une vie de prière, à la beauté de la liturgie, au silence de l'adoration eucharistique. Bah, beaucoup de champions ont fréquenté ces lieux d'exploits sportifs, ces lieux de vie, ces lieux de déception, de pleurs. Quand l'équipe de France de rugby perd, j'imagine les ramasseurs de balles sur le terrain au Stade de France quand on perd contre l'Afrique du Sud. Voilà, ils ont dû pleurer avec ceux qui pleurent, avec ces champions dont le rêve, dont tous les sacrifices se sont évaporés. Antoine Blondin, que je cite souvent ici, disait « On ne devient pas un champion parce qu'on va au stade. On va au stade parce que l'on possède déjà l'embryon d'une mentalité de champion. » Les champions, et comme les saints, ils ont hanté les églises, ils ont écumé les stades, ils ont aimé ces lieux, ils ont laissé leur mémoire tout entière s'imprégner de ces instants et puis se sont fait un jour une promesse intime « Un jour, c'est d'habiter ces lieux. J'habiterai ta maison, Seigneur. » Et Blondin disait encore « ce ne sont pas des débouchés qu'il faut proposer à ces individus qui émargent à une civilisation chargée de sollicitations. » Blondin, ça, il le dit il y a 50 ans. Ce n'est pas des débouchés. Aujourd'hui, on nous parle de débouchés, de vocation, d'appel, etc. Et il dit, ce qu'il faut leur proposer, alors c'est très Saint-Exupéry, hein, c'est l'existence d'une flamme. On a besoin de cette flamme. Et je vous parlais de la bougie et du phare. Eh bien, il y a cette lumière qui éclaire et qui réchauffe. Et tous les champions, quelque part, ont été enflammés. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Tony Estanguet et triple champion olympique qui organise les Jeux olympiques à venir. Et Tony Estanguet, un jour, après ses épreuves, disait « J'avais rendez-vous avec moi-même. » Après un long cheminement de dons et d'oblations, c'est moi qui parle, c'est pas Tony Estanguet, hein. Ce rendez-vous de rencontre avec soi-même, il est honoré. Les champions le savent, ils savent intérieurement qu'ils sont... comme ils le disent, sur leur zone, ils se savent confirmés. Ils ont une dignité toute spéciale, ils ont une vocation unique et irremplaçable. Le champion est un peu à part, un peu comme le saint. Ils ont ce petit plus différenciateur, cet espace qualitatif qui les place ailleurs, en dehors, au-delà. C'était cette rencontre un jour avec un évêque qui nous poussait dans des projets missionnaires. Et je me souviens, on vivait des moments très forts et il organisait cette succession de moments très forts. Et un peu avant la fin de la journée, il s'éloignait. Il s'éloignait, vous voyez, il avait diminué pour qu'il grandisse, un peu comme Saint Jean-Baptiste. Et puis il s'éloignait comme Lucky Luke, le cow-boy solitaire. Et puis il passait à autre chose. Voilà. Et donc cette espèce de distance, et c'est intéressant, c'est qu'alors qu'on évoque de plus en plus dans notre société... ces instincts de prédation qui peuvent unir un maître à un élève, un disciple qui peut se faire malgré lui à travers des phénomènes d'emprise, un peu l'esclave d'un mentor, eh bien, il y a cette juste distance où le champion a rendez-vous avec lui-même, il va absorber des conseils, mais finalement, c'est alors avec le secours de la grâce, avec cette vie intérieure, etc., c'est lui qui va tracer aussi sa route. Et il va pas être, il va conserver cette juste distance avec les événements et avec les autres. Et je pense que dans tout ce qu'on a pu partager hein, sur le sport et ce lien entre le sport et la foi, il y a toujours cette question du geste juste et de la médiété qui est cet équilibre, cette juste distance avec les événements, avec l'autre dans la gestuelle sportive. C'est-à-dire que le tacle, par exemple, au football, ne doit pas être trop tôt ni trop tard. S'il est trop tôt, eh bien on rate le ballon. S'il est trop tard, on blesse l'adversaire. C'est pareil dans le rugby. La passe doit être faite dans le bon tempo. Si on fait la passe trop tôt, eh ben, l'équipier, quand on fait cette passe en arrière qui nous fait avancer, c'est tout le génie du rugby, l'équipier n'est pas encore sur la balle. Si la passe, on la fait trop tardivement, l'équipier est déjà passé et le ballon atterrit misérablement en touche. Je le voyais hier soir, c'était très drôle, ce match Racing La Rochelle, où on voit les Racing Men qui donnent tout pour protéger leur terrain. Et j'en parlais avec mon ami Tanguy ce matin, avec qui on parle beaucoup des saints pères de famille qui organisent aussi leur épreuve sportive que sont les pèlerinages. Et il disait que le Racing était injouable à domicile. Vous savez que c'est très intéressant, c'est qu'une équipe qui joue à domicile secrète 30 à 40% de testostérone en plus. Il est sur son terrain. Il est sur son terrain et il veut défendre sa citadelle, en quelque sorte. Voilà. Donc, le champion a cette juste distance, cet espace d'intériorité. Et puis, quelque part, tout ce qui se fait autour de lui ne le satisfait pas complètement. Et en ayant rencontré beaucoup de champions, je me souviens d'un échange avec Serge Betsen, qu'on appelait la faucheuse, qui était un grand joueur, troisième ligne de rugby. Quand il était petit, il s'était fait la promesse intime, alors qu'il était ramasseur de balles au Parc des Princes, qui était un peu l'ancêtre du Stade de France, il s'était dit, tiens, un jour, c'est moi qui serai là. Et il avait comme ça plein de petites vertus, de petits exemples. Il disait, quand je suis à l'entraînement, jamais je ne couperai le poteau de corner, parce que je dois être extrêmement professionnel à l'entraînement comme au match, et mettre la même énergie qu'en match. Et je me souviens d'un jour d'un entraîneur qui disait les grandes compétitions se gagnent à l'entraînement. Et je le dis souvent à mes enfants aussi qui préparent des concours, la période d'études est fondamentale. Tout se gagne parfois dans l'obscurité, dans la solitude finalement d'une chambre d'étudiants. C'est là que se gagnent les compétitions du concours. Et ça veut dire aussi que toutes nos journées se préparent parfois le matin dans l'intimité de la prière, où on confie au Seigneur le déroulé de toutes ces petites haies, de toutes ces petites épreuves, toutes ces petites toutes ces personnes aussi qu'on va rencontrer. Moi j'aime bien dire que les personnes que je rencontre, ce sont entre guillemets des adversaires, ce sont pas des ennemis, mais ce sont des adversaires, parce que l'adversaire, c'est celui avec qui je vais me confronter. Et c'est celui qui va me faire progresser. Plus l'adversaire sera coriace, plus j'irai chercher profondément les ressources en moi pour m'élever. Et on voit à quel point les champions comme les saints ont eu des vies d'adversité. Et donc, l'adversaire est mon ami. C'est le père René Pichon qui le dit souvent. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle « La pastorale des champions ». Et l'adversaire n'est pas un ennemi. L'adversaire, c'est vraiment la personne qui est face à moi et qui me permet d'avancer, peut-être d'aller plus loin pour éprouver ma force. Souvent, quand on rencontre des champions ou des formateurs de champions, on réalise que ce sont des personnes qui ont des failles. Ils n'ont pas été des enfants gâtés par la vie, mais ils se sont construits à force de volonté, de travail, pour faire de cette faille humaine, finalement, de leur fragilité, de leur vulnérabilité, un espace de paix et de liberté intérieure. C'est comme un peu là encore on fait le parallèle avec les saints. Le saint, c'est quelqu'un qui va se vider pour se remplir d'autre chose, se vider son ego, vider ses ambitions pour se laisser remplir de la volonté de Dieu et de sa grâce qui va venir augmenter sa nature. L'équilibre entre la nature et la grâce est fondamental. Dans l'Église, on a pu trop spiritualiser, trop parler de grâce. Il faut retrouver, et la patte humaine des champions, la nature, leurs failles, leur tempérament, leur caractère, tout ce que leur histoire, parfois douloureuse, a construit en eux, est quelque chose de fondamental. Et c'est sur le terrain de jeu que parfois, ils vont rencontrer cette grâce, ce petit supplément d'âme que les journalistes sportifs arrivent assez bien à exprimer. Beaucoup de champions sont sortis renforcés finalement d'épreuves personnelles et familiales. Ils ont dépassé parfois des complexes pour arriver aussi à surmonter un esprit revanchard ou peut-être d'amertume qui peut parfois les animer. Je vous cite la championne parmi les championnes, la sainte parmi les saintes, qui s'appelle Sainte Thérèse de Lisieux, l'apôtre de la petite voix, qui décrit dans sa correspondance son chemin de sainteté. Et ça inspire, ça rebondit un peu avec ce que peuvent vivre les champions. « Nous nous surprenons parfois à désirer ce qui brille. Rangeons-nous plutôt parmi les imparfaits, les petits que le bon Dieu doit soutenir à chaque instant. Oui, il suffit de supporter ces imperfections avec douceur. Voilà la vraie sainteté. » Et ce petit chemin, il y a peu de personnes qui arrivent à le comprendre. Parce que dans notre société un peu de papier glacé, où on porte des masques, on joue aux champions, alors que finalement, on est des petits athlètes de pacotille. Et donc la petite voix de Sainte Thérèse, c'est de dire, nous savons que nous sommes imparfaits, nous sommes des petits, et le bon Dieu nous soutient à chaque instant. Les champions et les saints, ils ont en commun une volonté, mais presque obsessionnelle, parfois presque agressive, de se battre et d'y croire, de façon toujours intensive. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Il n'y a pas d'ostentation. On n'est pas dans du bling-bling, on n'est pas j'allais dire, on ne se regarde pas être un saint, on ne se regarde pas être un champion. On est sur son couloir, concentré, j'allais dire, sur ses forces et sur l'accueil de sa vulnérabilité, de sa grâce. Et on n'est jamais spectateur de ses talents. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Vous savez, moi, je suis engagé chez les chevaliers de Colomb et on insiste toujours dans nos cérémonies en disant le chevalier, c'est celui qui sert et qui se donne sans se regarder. On avance toujours. On n'a pas le temps de ce regard vers son nombril, de dire « Ah, je suis quelqu'un de bien qui fait le bien ». Ce n'est pas le sujet. On s'en fiche, on avance. Et à l'heure des réseaux sociaux, moi je suis toujours même un peu gêné, parfois, même quand il y a des beaux mouvements caritatifs, il y a toujours cette nécessité un peu de la levée de fonds. Et là, alors qu'il y a de très belles choses qui sont faites, il y a une espèce de pause qui est mise, on prend la photo et puis on a tendance un peu à célébrer, alors ça peut faire germer aussi des choses assez égotiques, toutes les œuvres, évidemment pour lever plus d'argent, mais je pense que ça ne nourrit pas, ça ne fait pas grandir les acteurs de ces œuvres. J'aime bien le fait d'avancer doucement. Le maréchal Foch disait quelque chose de très beau, il disait « J'avance doucement car je suis pressé. » Mais je n'ai pas le temps d'avoir ce regard réflexif. Je n'ai pas le temps de me regarder avec mon uniforme, avec mes petites médailles, mes breloques et mes chaussures vernies. Je n'ai pas le temps. J'avance, mon regard est vers le phare, j'avance à la bougie, et je rencontre les personnes que le Seigneur a mises sur mon chemin. Et puis, j'ai cet appel intime en disant, « Seigneur, donne-moi ta force pour faire de grandes et belles choses et de servir là où je suis appelé. » La patronne des missions, hein, Sainte Thérèse cloîtrée, elle récidive toujours lucide et déterminée, et elle assume la sainteté. « Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté » dans ses manuscrits autobiographiques. Me grandir, c'est impossible, mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte et toute nouvelle. Et j'ai lu, si quelqu'un est tout petit qu'il vienne à moi, alors je suis venu. C'est-à-dire qu'elle a cru, et puis elle a, vous savez, elle a exécuté, quoi. Et elle n'est pas cherchée à faire de l'exégèse, etc. Elle n'a pas passé un temps fou à faire du discernement, à tirer les cheveux en quatre. Elle a dit « Alors je suis venu, qu'il vienne à moi, alors je suis venu. » Elle a eu le temps, évidemment, dans sa vie intérieure de discerner. On est dans le discernement ignatien, hein, juger, discerner et agir. Et elle a avancé. On parlait des saints et les saintes de Dieu avancent, elle a avancé. Antoine Blondin, je le cite encore, il définissait le champion comme un être accaparé qui se définit par une idée fixe. Il y a cette volonté qu'avait Sainte Thérèse de devenir sainte. La petite carmélite normande, fragile et déterminée, est devenue une championne internationale de la sainteté, ouvrant, telle une alpiniste, une voie simple et accessible au plus grand nombre. Et c'est merveilleux, parce que cette grande championne des missions, qui a inspiré tant de saints d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on le sait, à moins de 25 ans, même cette œuvre littéraire est d'une telle puissance. Et puis on est aussi dans une économie complètement, j'allais dire, baroque. comment, alors qu'il y a des Saint-François-Xavier, alors qu'il y a plein de grands saints qui ont traversé le monde, elle devient patronne des missions, restant entre les quatre murs de son couvent. Ça, c'est absolument génial. C'est une espèce de cadrage débordement, c'est un contre-pied de l'intelligence catholique par rapport au canon du monde. Loin du terrain des grandes actions et des œuvres, elle occupe le terrain de l'esprit et de la grâce dans la banalité de son quotidien. Mais elle conserve cette obsession de la sainteté. Elle reste fidèle à cet objectif et le champion, c'est celui qui finalise un peu toutes ses actions dans sa vulnérabilité, ce qui lui donne une forme de liberté en disant « Seigneur, voilà, ma nature est faillible, donne-moi ta grâce et j'avancerai. » Cette sainteté, elle l'a voulu de toutes ses forces et selon l'expression du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, un accueil de la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Voilà. Elle s'est fait réceptacle, le Seigneur lui a donné sa force et elle connaît sa faiblesse, elle l'accueille, elle l'assume et elle avance. Et avec en restant complètement calé et ajusté sur son axe. Cet engagement volontaire, ce travail obsessionnel, est-ce que ce n'est pas un peu menacé aussi par la tension et par la rupture? On voit aujourd'hui beaucoup de champions qui en font trop. On voit aussi des religieux qui partent en burn-out. Et c'est là qu'il y a aussi Saint Bruno, qui est un fin connaisseur de l'âme humaine, fondateur des Chartreux. Il rappelait que si l'arc est tendu sans relâche, il perd de sa force et devient moins propre à son office. Donc les saints et les champions, comme les artistes, ils puisent leur mouvement dans une grande liberté. Un va-et-vient finalement entre cette maîtrise obsessionnelle et cet abandon libérateur, entre la tension et l'oblation qui permet de délivrer ce geste juste dans le temps, au bon moment, et puis dans l'espace, parce que tous ces mouvements sont corporels. Et on voit, moi j'ai eu l'occasion de l'expérimenter en jouant au foot ou au tennis, quand on joue relâché, on joue beaucoup mieux. Le relâchement, c'est le souffle et le geste relâché, non pas tendu, nerveux, qui crispé. Le geste relâché est beaucoup plus fluide, beaucoup plus ample et c'est le prolongement de notre être. Les psychologues du sport parlent beaucoup de l'intuition comme d'un éclair d'intelligence qui vit, vibre, rayonne en parfaite harmonie avec le corps. Les artistes parlent, eux, du pouvoir de l'improvisation, les champions, celui de l'intuition. Mais c'est la même harmonie. Et je pourrais rajouter, et les saints, celui de l'état de grâce, celui de la grâce qui vient augmenter, qui vient prolonger notre nature. Le père René Pichon, que j'ai eu l'occasion souvent de rencontrer, qui était prêtre, coureur de fond, il a beaucoup, de façon prophétique, beaucoup parlé de cette rencontre entre le sport et la foi. Il convoquait la grâce autour de la figure sacerdotale du prêtre. Il dit la chose suivante. Et je sais que le cardinal Suard, dans un très beau texte paru dans les années 50, il était archevêque de Paris, avait évoqué justement la figure du prêtre comme un être à part, qui sera toujours soumis à des contradictions, à des attaques, etc. Comme le champion, l'artiste, le prêtre est un être séparé à part. Il crée la communion. Il offre sa vie, son corps pour tirer l'humanité vers le haut. Il nous offre le divin. Il exprime ce qui anime le monde, mais il ne vient pas du monde. Comme le champion et l'artiste ne sont pas le produit des hommes et des spectateurs, mais les signes de la grâce, des états de grâce. La grâce stabilisée dans un corps pour quelques instants, personnifiée, corporalisée. C'est ainsi que l'Esprit Saint, j'en ai assez peu parlé, j'ai parlé un peu du souffle, eh bien il pénètre sur le terrain de nos vies pour, en quelque sorte, fluidifier le jeu. Il y a un philosophe qui s'appelle Michel Bouet qui définit le champion comme le témoin de ce qu'il y a de surhumain dans l'humain et le représentant de ce qu'il y a d'humain dans le surhumain. Et ça fait écho à des propos de Gustave Thibon qui disait que notre vie était là pour diviniser le temporel et donc pour surhumaniser l'humain. C'est un peu ça. C'est notre nature, avec ce que ça suppose de limiter, de faillible, etc., sera toujours augmenté par la grâce. Le temporel sera densifié par le spirituel. Et c'est cette intrusion du surnaturel dans la temporalité de nos vies, la temporalité sportive et puis la temporalité de nos états de vie, parce que notre vocation à la sainteté, elle nous rejoint dans nos états de vie, que nous soyons pères, que nous soyons veufs, que nous soyons célibataires, que nous soyons religieux. Cet appel à la sainteté, cet appel finalement, j'aime pas le mot performance, mais cet appel à la communion pour être ce qu'on est appelé à être, comme des champions de cette joie qui naît vraiment du don de nous-mêmes, c'est le fil conducteur de notre vie. Le champion, il puise sa force dans ses dons et ses capacités, dans cette recherche, en quelque sorte, du contrôle du risque qui exige sa performance, mais en acceptant aussi l'audace. S'il n'est que dans le contrôle de la technique, on va être dans une espèce de technicité, de process, de méthodologie. Et il y a toujours, on l'évoquait tout à l'heure un peu, il y a toujours cette intuition. Moi, je crois beaucoup à ces petites intuitions que l'Esprit Saint met dans notre cœur pour poser des gestes gratuits c'est des locutions aussi qu'on peut avoir pour poser ces gestes gratuits qui vont créer la communion. Et je me souviens un jour, il y avait un match de handball, l'équipe de France était perdue et était menée, il restait une minute de 2 buts. Et là, il y a un entraîneur qui a fait rentrer un joueur, j'oubliais son nom, c'était pas Daniel Narcisse, qui était un joueur complètement foutraque. Et il savait que ce joueur-là devait rentrer dans cette temporalité-là, parce que ce joueur allait tenter des choses que lui seul aurait osé tenter. Et c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait mettre de la folie, et ce joueur a sauvé l'équipe de France.
Chers auditeurs, c'était notre émission Les Jeux Olympiques et la foi. Vous étiez avec Arnaud Boutéon. Le thème était Les Champions et la foi. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.